Les porteuses de fables sont bien accueillies. On fait une fête en leur honneur. On dresse les tables dans les serres, dans les orangeries. Les boissons sont mêlées de narcotiques. Il y a dans les vins, dans les alcools, de la belladone, du jusquiame, de la morelle, du datura. Dans un premier temps, les buveuses sont calmes. Par les portes ouvertes, on les voit allongées sur les divans, à demi assoupies, ou couchées dans l'herbe des pelouses. Plus tard, elles sont prises de délire. Quelques-unes jouent d'un instrument et chantent dans quelques parties des jardins. Les larmes coulent sur leurs joues, les sanglots pour finir interrompent leur chant. D'autres dansent en emmêlant leurs cheveux et en frappant de toute leur force contre le sol avec leurs pieds. Autour des tables, sous l'effet de la drogue, elles tiennent des discours où s'accumulent les paradoxes, les absurdités, les logomachies, les paralogismes, les cavillations, les dénombrements incomplets. À un moment donné, quelqu'une interpelle les parleuses en demandant grâce, en exigeant un raisonnement dépourvu de défauts. Tout alors se taise et s'endorme. Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par Lo, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie d'Aïla Naturo.
Mauvaise graine.
Vous venez d'entendre un extrait des Guerrières de Monique Wittig en introduction de cette deuxième partie de notre voyage parmi ces plantes étonnantes que sont les quatre cavalières de l'atropine.
Et aujourd'hui, nous continuons la série avec la jusquiame et la belladone, toutes les deux célèbres pour leur toxicité et pour les nombreuses légendes qu'elles ont suscitées. La belladone et la jusquiame ont des effets similaires. Par contre, la jusquiame est un peu moins forte que la belladone. Et au niveau des effets néfastes, la belladone donne un délire violent et désordonné, alors que la jusquiame va plutôt rendre triste et endormir.
Nous commençons avec la jusquiame et par son étymologie. Donc du latin iosimos, qui vient du grec, qui veut dire fève de pourceau. C'est une étymologie étonnante qui demande une explication un peu longue que je développerai dans la partie symbolisme.
Continuons avec la botanique. En France, il n'y pousse seulement que deux espèces de jusquiame, la blanche et la noire, qui ont les mêmes propriétés. D'après Discoride, il vaut mieux utiliser la blanche qui serait moins dangereuse que la noire, seulement elle pousse plutôt en Méditerranée. La jusquiame est une plante herbacée de la famille des solanacées originaire d'Eurasie. Et si vous voulez en savoir plus sur cette famille botanique, nous en parlons dans l'épisode précédent sur la datura et la mandragore. La jusquiame, elle pousse principalement dans les décombres, les cimetières, les bords de chemin, sur les vieux murs ou les carrières abandonnées. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, selon la variété, et elle est reconnaissable à son odeur désagréable.
Et ça, c'est la tétraméthylputrescine qui est responsable de cette odeur.
Sa tige épaisse et velue, visqueuse et couverte de poils glanduleux qui collent aux doigts. Les feuilles sont rapprochées, sans tige, et elles embrassent la tige principale. Elles sont molles et douces au toucher. Elles ont une forme ovale avec des grosses dents aiguës et profondes. La jusquiame est en fleur plutôt de mai à septembre. La fleur est en général sessile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de tige. Elle se présente en entonnoir et est terminée par 5 larges lobes arrondis de couleur jaune pâle, avec une gorge et des nervures colorées. La jusquiame noire porte bien son nom puisque le centre de la fleur ainsi que ses veines qui la parcourent sont noires.
Et c'est une très belle fleur assez unique et qui a un aspect gothique, moi je trouve.
C'est vrai qu'elle est belle. Le fruit mûr ressemble, lui, curieusement à une marmite avec un couvercle et quand celui-ci saute à maturité, il dévoile de nombreuses graines brunes, entre 200 et 500 graines, et qui peuvent rester de longues années dans le sol avant de germer.
Go down.
Venez d'entendre Walking the Witch par Kate Bush pour introduire cette partie symbolisme.
Et donc pour cette partie, je vais vous parler de Circé tout d'abord, car la Jusquiame lui doit son nom savant, et aussi parce que les plantes dont on parle dans ces deux émissions lui sont associées. Alors, on peut dire que c'est la première herboriste antique. Homère la qualifie de polypharmakos, c'est-à-dire experte en multiples drogues et poisons, propre à opérer des métamorphoses. Et il est vrai que la Jusquiame a été tout particulièrement associée à tout ce qui est impression de se métamorphoser en animal, et notamment la lycanthropie, c'est-à-dire les loups-garous.
Et c'est la yosiamine, une molécule active très dosée dans la Jusquiame, qui induit ce type d'hallucination particulière.
Donc revenons à Circé, c'est une déesse, même si plus tard elle a été déclassée en magicienne. C'est la fille de Hélios, le titan soleil, et de Perséis, nymphe du titan océan. Son nom signifie « oiseau de proie ». C'est donc une hybride titan et nymphe, quelque chose qui n'a pas de nom pour les Grecs. Alors, il y a eu de nombreux débats à la Grèce antique, mais Homère, Virgile, Hésiode et Ovide, de grands auteurs antiques, la considèrent comme une grande déesse. Elle habite sur l'île d'Éa, dans un palais, au milieu d'une forêt entourée d'animaux dont certains étaient des humains avant qu'elle ne les transforme. Car oui, Circé est surtout connue pour sa science de la transformation. Par exemple, elle transforme les marivolages et ceux qui ne la respectent pas en cochons. Elle a transformé Scylla, une nymphe, en monstre marin redoutable car elle était jalouse de son prétendant Glaucos.
Certains disent qu'en fait, elle révélerait la vraie forme des êtres.
C'est une grande prêtresse reconnue dans le monde antique, de toute façon. Dans ses caves, elle conserve ses vins et ses préparations, additionnées de toutes sortes de plantes médicinales et toxiques comme la jusquiame, voire mortelles comme la belladone. Dans la littérature, elle apparaît dans le chant 10 de l'Odyssée, qui raconte le retour compliqué d'Ulysse après la guerre de Troie. Il débarque avec ses compagnons sur son île, après avoir affronté tempêtes, dieux, déesses, monstres marins, dont la fameuse Scylla. Ces marins vont jusqu'au palais de Circé où elle leur offre du cicéon. C'est un mets composé de gruau, de miel, de fromage et de vin aromatisé de certaines plantes, dont la jusquiame. Comme ils n'ont pas une attitude respectueuse envers Circé, elle récite une incantation et ils sont transformés en pourceaux.
Ah bah voilà l'explication étymologique du nom de la jusquiame.
Et voilà, c'est long, mais on comprend mieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ulysse, qui était encore sur son navire, n'a pas été touché. Donc Hermès, messager des dieux, envoyé par Athéna pour protéger Ulysse, lui donne du moly, une plante. Il sera ainsi protégé des maléfices de Circé.
Et qu'est-ce que c'est le moly qui protège Ulysse ?
Eh bien, récemment, des chercheurs ont réussi à découvrir qu'il s'agit du personnage, le Galanthus nivalis, dont la galantamine qu'il contient contrecarre l'action de l'atropine contenue dans la jusquiame.
Comme quoi la mythologie a souvent un fond de réel.
Eh oui. Donc revenons à notre petite histoire. Quand il va chez elle, elle n'arrive pas à le transformer en pourceau. Il la menace de son épée et lui fait jurer qu'elle ne recherchera plus à leur nuire. Impressionnée par cet homme, elle jure et se donne à lui. Elle inverse son sort et les compagnons d'Ulysse sont libres. Alors, pour continuer avec la Grèce antique, toujours, on raconte que la Jusquiame est née du vomissement du chien Cerbère, le gardien des enfers, qui ne put supporter les rayons du soleil lorsqu'il fut sorti des enfers par Hercule lors de ses fameux travaux. La Jusquiame et la Belladone, et même toutes les plantes contenant de l'atropine, sont associées à Hécate, grande déesse primitive et considérée avec Isis comme mère des sorcières. Même si on voit Hécate aujourd'hui comme une déesse sombre, elle était au temps ancien une déesse protectrice des femmes et qui accordait de nombreux bienfaits à qui la vénérait, comme la santé et la guérison. La Jusquiame et la Belladone étaient considérées comme des plantes de guérison car elles ont de nombreuses propriétés médicinales très utilisées encore aujourd'hui dans la médecine contemporaine. Et Aurélie, maintenant, va nous en parler en détail.
C'est une plante toxique riche en alcaloïdes, la yosiamine, la scopolamine et l'atropine. La Jusquiame compte parmi les plantes les plus vénéneuses et les Romains disaient qu'elle rendait fou. Elle l'est cependant moins que la Belladone. La teneur en alcaloïdes totaux est souvent faible, 0,05-0,15% à peu près, sauf dans les graines. Alors déjà, chez les Égyptiens, les Perses et les Arabes, on s'en servait pour endormir les maux de dents. Au Moyen-Âge, on utilisait aussi la vapeur de graines rôties contre les maux de dents et leur décoction contre les tremblements et les maux d'oreille.
C'est drôle car dans Hamlet de Shakespeare, on tue le roi en lui mettant justement du jus de jusquiame dans l'oreille.
Peut-être que la dose n'était pas bonne. Avec son fruit en forme de dent, les dentistes fidèles à la théorie des signatures l'ont prescrite contre les rages de dents inflammées et les abcès de la bouche. Puis au XVe siècle, on l'utilise en guise de chloroforme pour ses propriétés analgésiques lors des opérations chirurgicales. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, elle pouvait être associée à la mandragore qui produit aussi un effet calmant et soporifique. Au début, il y avait surtout des usages populaires de son effet narcotique et hallucinatoire. C'est seulement en 1762 que la médecine a commencé à sérieusement s'y intéresser avec le toxicologue viennois Stoack. Il l'utilise comme antispasmodique puissant, sédatif du système nerveux et pour certaines maladies mentales. C'est une plante aussi intéressante contre les maladies neurodégénératives. Elle a une action sur les problèmes de tremblement et peut être utilisée donc pour l'épilepsie ou pour la maladie de Parkinson. De nos jours, on utilise les feuilles, les racines, les semences de la plante sous forme de poudre de feuilles ou d'extrait en teinture. On peut l'associer à la valériane dans les pilules sédatives de Maiglin. C'est un médecin qui a développé ces pilules pour calmer la douleur des névralgies. Et elle entre aussi dans la composition du baume tranquille et de l'onguent populeum pour soulager douleurs rhumatismales ou de peau. L'alcoolature de jusquiame, c'est-à-dire les feuilles fraîches extraites dans l'alcool, est un puissant analgésique, antispasmodique et calmant. On peut l'utiliser contre les affections des voies respiratoires, c'est-à-dire bronchite chronique, coqueluche, tuberculose, mais aussi contre les névralgies, plus particulièrement celui du trijumeau, et puis contre les douleurs articulaires, les crampes d'estomac, les coliques.
Alors, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser en externe ?
Et oui, on peut cuire les feuilles et les broyer, hein, les envelopper dans une feuille de chou et l'utiliser en cataplasme dans les douleurs de la goutte ou des rhumatismes, mais aussi lors de douleurs névralgiques de la tête et des migraines. Elle soulagerait instantanément grâce à l'application de ces feuilles. On peut également utiliser le remède homéopathique Yosiamus niger, issu de la jusquiame, pour traiter les toux spasmodiques, les spasmes musculaires et les tiques, ainsi que la nervosité et les terreurs nocturnes chez l'enfant. Alors attention tout de même, c'est une plante toxique, on ne peut pas l'utiliser seule, sauf sur ordonnance d'un médecin. L'intoxication à la jusquiame provoque un effet de paralysie du système nerveux sympathique. Les symptômes observés sont des vertiges, la dilatation des pupilles, des hallucinations, des convulsions et dans les cas les plus graves, le coma ou la mort.
On va y aller mollo.
Try.
tease away, gonna make a river.
D'entendre Belladonna par le groupe Aubépine et c'est une parfaite introduction à la partie consacrée à cette plante.
Donc, comme toujours, on va commencer par son étymologie. Son nom générique, Atropa, donné par Linné, un botaniste, correspond à l'une des trois moires. Les moires, ce sont des divinités grecques du destin. Alors, il s'agit de trois sœurs, Clotho, la fileuse, qui tisse le fil de la vie, Lachesis, la répartitrice, qui déroule le fil de la vie, et Atropos, donc, l'inflexible qui le coupe. Donc, on note bien la volonté de montrer le danger de cette plante qui coupe le fil de la vie. Son épithète spécifique, Belladonna, a aussi une histoire intéressante puisqu'il viendrait de l'italien Belladonna, belle dame. L'expression viendrait de l'usage cosmétique de la substance, soit comme fard, soit comme collyre, par les élégantes italiennes, données par deux naturalistes anglais. Mais selon les étymologistes, Alain Rey par exemple, le terme serait peut-être de même origine que le latin médiéval bladonna, adapté en français sous le nom de bladone. Donc le mot d'origine gauloise devient belladonna en passant par l'Italie. Et voilà, décidément ces plantes ont des étymologies assez bizarres.
Alors, on va passer à la partie botanique de la plante. C'est une vivace qui peut monter jusqu'à 2 mètres, équivalent de la taille d'un basketteur quand même. Elle fait partie, elle aussi, de la famille des solanacées, comme la jusquiame. Elle est velue et lorsqu'on froisse les feuilles, elle dégage une odeur fétide.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression que souvent les plantes toxiques dégagent une mauvaise odeur.
Oui, il faut se fier à son flair. Mais bon, pas seulement. Si on peut la reconnaître... Aussi, c'est grâce à son emplacement. La belladone est assez rare, mais on la trouve dans les bois, les forêts, après une coupe de bois. Parfois dans les haies, les décombres, sur l'humus, et plutôt en région calcaire et en basse montagne jusqu'à 1600 mètres. En 2021, l'espèce est considérée en danger dans le monde, mais comme non menacée en France, où elle est classée espèce de préoccupation mineure par l'UICN. La floraison débute en juin. Mais fleurs et fruits peuvent coexister sur un même pied, d'août à octobre, en Europe. Ces fleurs sont hermaphrodites, violettes, en forme de tube. Elles sont solitaires et pendantes. Les fruits, eux, sont des baies noires luisantes de la taille d'une petite cerise. La baie se reconnaît facilement par son calice persistant qui forme une étoile, c'est-à-dire 5 dents courtes autour du fruit. La pulpe, elle, est juteuse violacée et les graines sont nombreuses, du gris au noir selon le degré de maturité et d'un diamètre inférieur au millimètre, donc c'est minuscule.
Attention, le risque d'intoxication est important du fait de sa ressemblance avec certaines variétés de cerises et de la myrtille. En plus, son fruit a un goût sucré agréable. Elle est très toxique et déjà mortelle des 2 à 5 baies chez l'enfant et des 10 à 12 baies chez l'adulte. Maintenant, explorons ses propriétés médicinales.
Et oui, elle n'est pas seulement dangereuse, elle est aussi médicinale. Bon, elle était rare, donc peu connue par les anciens, mais on retrouve des usages à partir du Moyen-Âge avec Saint-Hildegard de Bingen, qui l'utilisait contre les névralgies, c'est-à-dire l'inflammation des nerfs, comme la sciatique ou la cruralgie. Elle peut se prendre sous forme d'infusion à raison de 2 à 4 grammes par litre, mais maximum 3 cuillères à soupe de plantes par jour. C'est un sédatif puissant à large spectre car elle soulage les douleurs spasmodiques du système digestif, du système respiratoire, du col de l'utérus, du vagin, des toux nerveuses et j'en passe. La belladone a aussi une action sur les pupilles, comme on l'a vu tout à l'heure, en les dilatant, et elle fut découverte par Jean Rey en 1677. Donc à la Renaissance, les femmes italiennes appliquaient sur leurs yeux quelques gouttes de l'infusion de belladone qui avait pour effet de dilater leurs pupilles et leur donner un regard noir profond, les yeux de biche. Et c'est seulement en 1800 que Imlay l'utilise pour une opération de la cataracte et que les ophtalmologistes commencent à l'utiliser pour effectuer des examens des yeux. Autrefois, la plante en décoction associée à de la farine de lin était utilisée en cataplasme pour calmer les douleurs, apparemment intéressante pour les affections de la peau superficielle, du type fistule anale, hémorroïdes, brûlures, engelures, dartres, contusions, mais aussi pour les douleurs d'arthrite, de goutte et de rhumatisme. Cependant, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cette plante au niveau de la peau, car la peau est aussi absorbante et donc il faut vraiment utiliser des faibles doses et augmenter progressivement. Et tout comme la datura, ces feuilles servaient aussi à faire des cigarettes contre l'asthme. Comme la jusquiame, ses racines permettaient de concocter un vin pour lutter contre la maladie de Parkinson. Et aujourd'hui, le seul emploi sans danger, c'est la prescription homéopathique contre les états fiévreux avec rougeur, les coups de soleil ou les douleurs abdominales.
Alors, l'atropine qu'elle contient est référencée comme remède de base sur la liste des remèdes essentiels à l'OMS, car utilisée aujourd'hui en médecine. Alors, aussi bien en ophtalmologie comme on l'a vu, mais aussi elle arrête l'espace respiratoire avant une intervention chirurgicale, elle agit sur le système nerveux sympathique et parasympathique et elle accélère le rythme cardiaque. L'atropine sert aussi d'antidote à certains gaz de combat neurotoxiques comme le gaz sarin. Et petite anecdote, les militaires et les scientifiques amenés à les manipuler sont munis de seringues auto-injectables.
Donc attention, il n'est pas recommandé de prendre la plante en dehors d'une prescription du médecin ou sans accompagnement d'une personne formée sur les dangers de la plante. C'est une plante dangereuse, mortelle. Les symptômes de l'empoisonnement sont la gorge sèche et les pupilles dilatées, qui peuvent être accompagnés de nausées, de vomissements, de visions troubles, de vertiges, de terreur, de contorsions, de convulsions, d'hallucinations et j'en passe, car la liste est longue et cela peut aller quand même jusqu'à le coma ou la mort.
Et alors paradoxalement, beaucoup d'animaux sont insensibles au poison de la belladone et peuvent donc la consommer sans danger. C'est le cas par exemple du lapin, du cheval, du mouton et même de la chèvre. On a d'ailleurs signalé l'empoisonnement d'une enfant qui avait bu du lait tiré d'une chèvre qui avait mangé de la belladone. Étonnant.
Évidemment, donc, ce sont des plantes dangereuses, mais intéressantes à connaître, car il n'y a pas de bien et de mal dans la nature. Ça se mélange, ça se côtoie, et les effets bénéfiques comme les effets négatifs. Il s'agit donc de bien contrôler le dosage.
Les plantes ne sont ni bonnes ni mauvaises dans la nature. C'est l'humanité qui utilise une plante pour le bien dans la guérison ou pour le mal, pour tuer ou maudire. Donc nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé et permis la réalisation de cette émission.
Nous nous retrouvons le mois prochain, le 14 mai. pour vous parler d'un sujet plutôt vaporeux.
Chouette. N'oublie pas de visiter notre page Instagram de Mauvaises Graines pour nous laisser messages et commentaires. Ça nous fait toujours plaisir et puis si, suivre nos actualités.
Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions sur le site de Jet FM, Spotify et Deezer. À bientôt.
Au revoir.